La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et c'est toujours un réel plaisir que de vous retrouver sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria pour vous faire vivre tous les événements tout au long de l'année. Et c'est le premier finalement de la rentrée, c'est la REF 2026 ici au stade de Roland-Garros depuis la Porte d'Auteuil où nous recevons depuis 14h cet après-midi et demain toute la journée de nombreux invités qui viennent ici nous rejoindre en studio aux côtés de Sylvain Lévy-Valency. Comment ça va Sylvain ?
Mais écoutez, ça va chaudement. Hein,
oui, on fait avec. Hein.
On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Et ce qui est très intéressant également, c'est que nous, on amorce un peu la rentrée de notre grille hein,
complètement.
Avec tous nos médias. Également, de voir autant de monde, autant de vitalité à un moment où la France se pose beaucoup de questions, puisque ça n'a échappé à personne quand on est à l'aube d'un mouvement et d'un bouleversement radical hein, avec les échéances présidentielles de 2027. Et donc, je trouve ça rassurant que tous les entrepreneurs soient unis. Je rappelle également dans le discours d'ouverture de Patrick Martin, justement, le rappeler que les entrepreneurs sont la nécessité dans le pays et créent des équilibres. Donc, je trouve intéressant également que nous présentions justement des initiatives industrielles d'entrepreneurs familiaux. Et ça nous fait beaucoup de bien.
Beaucoup de bien de recevoir Julie Neuville. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes la présidente de MatierUp. Le bâtiment doit effectivement décarboner et vite, mais il doit continuer aussi à construire dans le même temps. MatierUp défend une autre voie, l'industrialisation, avec un ciment à base d'argile activée à froid. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit concrètement, bas carbone, circulaire et produit au plus près des ressources même. Très rapidement, Sylvain le disait en introduction, entreprise familiale, qu'est-ce que vous faites très concrètement et votre techno, en quoi elle est différente de celle de vos concurrents ?
Alors le ciment, avant de vous expliquer ce qu'on fait, c'est déjà savoir qu'est-ce que c'est le ciment. Donc le ciment, c'est de la poudre, c'est une colle qui permet, avec de l'eau et des cailloux, de fabriquer le béton. Et le béton, ben, on en a partout autour de nous, dans nos bâtiments, sous nos routes, partout. C'est le deuxième produit le plus utilisé au monde, après l'eau en bouteille. Et donc ce ciment, il est responsable de 8% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. 8%. Donc c'est trois fois le transport aérien mondial. Ça vous donne un ordre d'idée du sujet qui est devant nous posé sur la table. Et habituellement, depuis 200 ans, voilà, la recette n'a pas changé. On calcine à 1400 degrés dans des gros fours industriels géants. Du calcaire pour l'activer et pour qu'il puisse devenir le ciment que tout le monde utilise au quotidien. Et donc nous, l'ADN chez MatierUp, c'est de se dire il va falloir continuer à construire des routes, des écoles, des hôpitaux, des logements. Vous aviez le DG d'ICA tout à l'heure. Comment le faire de façon plus responsable ? Comment le faire de façon compétitive ? Et donc, on a pris le problème à l'inverse. On s'est dit, on ne va pas essayer de capter le carbone une fois qu'il est fait. On va essayer de ne pas en émettre quand on produit notre matériau. Et donc, déjà, on va prendre des déchets d'argile, au lieu d'aller creuser spécifiquement pour nous. Et il y en a énormément en France et partout dans le monde. Et ces déchets, au lieu de les cuire, les calciner, on va les activer à froid. Alors, on ne veut pas rentrer dans tous les détails techniques, mais on n'a pas besoin de four. Et comme on n'a pas besoin de four, on n'a pas besoin d'énergie fossile. Donc ça permet de se libérer des énergies fossiles, d'avoir des usines électriques et d'émettre beaucoup moins de CO2. Aujourd'hui, on émet deux fois moins de CO2 pour un matériau qui a les mêmes caractéristiques.
Alors, vous avez pardonnez-moi, hein, je vous ai coupé.
Non,
la base d'argile activée, qu'on comprenne bien, pour entrer dans la technique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez breveté une techno, une nouvelle techno ?
Tout à fait. Donc aujourd'hui,
donc vous détenez aujourd'hui un brevet qui vous permet, qui a permis finalement de manière très innovante de faire de l'activation d'un argile activée à froid. Effectivement, on comprend bien l'économie d'énergie
exactement.
Non consommable.
Alors c'est pas un, mais c'est 100 brevets.
D'accord, c'est 100 brevets
qui sont déposés. Donc c'est une techno française, européenne, et ça on y tient, c'est important pour nous, qui est ce qu'on appelle une technologie de rupture. Donc ça veut dire qu'il y a un gap technologique entre ce qui était fait et celui-ci.
Donc face à des Holcim, face à des Heidelberg Cement par exemple, vous êtes directement en innovation totale, face
exactement.
À des monstres du béton.
Hein, exactement.
Ce qui est important, parce que quand on parle de béton, ça ne fait pas rêver sur le papier, bien évidemment, alors que le béton est permanent partout, absolument. Et que le béton, malheureusement, a subi une campagne de bashing béton phénoménale depuis des années. D'ailleurs, pour insulter quelqu'un, on dit, ou un maire, on dit c'est un maire bétonneur, ou il faut arrêter de bétonner, ou on a bétonné le littoral. Etc. Beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas qu'il y a plus de 250 formules de béton bas carbone, qu'il y a aujourd'hui des bétons en condamnement et des récupérations de granulats qui permettent, par exemple, d'être en économie circulaire. Et ce qu'on ne comprend pas aussi toujours, et je voudrais que vous nous expliquiez, c'est que pour produire du ciment et du béton, on est dans une localisation industrielle très proche. Ce que vous alimentez sur des rayons, je crois, de 200 km à peu près.
Exactement.
Ce qui fait que vous avez une activité de vitalité économique régionale très forte, très puissante, et on peut le comprendre. Est-ce que, justement, cette idée qu'aujourd'hui, on veut substituer au béton du bois, avec une filière qui aujourd'hui est en train de se massifier, qu'on veut substituer également au béton des délais de livraison, la capacité sur des surélévations, est-ce que, par rapport à votre technologie, est-ce que vous n'avez pas finalement, je pense que vous y avez déjà pensé certainement, mais est-ce que vous ne vous dites pas, tout ce qu'on a fait, c'est une réponse complémentaire finalement à un mode constructif innovant ?
Alors, c'est pas une réponse complémentaire dans le sens où ça se substitue au ciment et au béton qui existent déjà.
D'accord. Mais ça reste du béton.
Voilà, l'angle, exactement, ça a les mêmes propriétés. Okay. Parce qu'aujourd'hui, pour construire des logements sociaux, ce qu'on veut, c'est du prix. Mm. Et si on veut du prix, le matériau plus économique, ça reste le ciment et le béton.
C'est très clair.
Pour autant, la question qu'on peut se poser, c'est quand on construit, si on peut éviter d'utiliser des matériaux, et là je parle de façon générale, qui sont polluants, qui sont émissifs, qui sont coûteux, tant mieux. Utilisons-les. Quand on va avoir besoin de matériaux qui vont être isolants, on a aussi un ciment qui a des vertus isolantes l'été, utilisons tous ces matériaux. Par contre, quand on doit faire des fondations, il faut obligatoirement du ciment et du béton. On ne peut pas aujourd'hui, ou très peu, utiliser du bois pour faire des fondations.
Absolument.
Pour faire des sous-couches routières, on ne peut pas. Pour faire des places publiques, on a besoin de venir permettre d'avoir les pompiers, par exemple, qui passent. Donc, il faut de la résistance. Donc, le béton, il est économique, il est résistant, il est éprouvé. L'idée la plus simple, je pense que tout le monde se retrouvera là-dessus, c'est de se dire, mettons le bon matériau au bon endroit. Quand on peut substituer par des matériaux plus vertueux, faisons-le. Quand on ne peut pas, pour des raisons techniques et ou économiques, passons sur du béton bas carbone, mais arrêtons le conventionnel.
Je vais vous poser une question qui était une question de néophyte. Donc si je dis une bêtise, vous nous le dites. Hein. Le retrait et le gonflement d'argile, est-ce que ça a un impact dans ce que vous faites ? Parce qu'on en a beaucoup parlé cet été à cause de la sécheresse, justement, où on sait que effectivement, lorsque les pluies arrivent, on a un gonflement de l'argile, et lorsque on est en sécheresse, on a un rétrécissement de l'argile qui fragilise les structures. Dès lors que vous créez un matériau comme le ciment à base d'argile à froid, est-ce que c'est une hérésie de le dire comme ça ou...
Oui, la question est légitime pour le coup.
Tout à fait.
Pas pour démystifier, surtout,
oui, oui.
De ne pas faire peur à ce
que... Mais c'est très intéressant et c'est important d'y répondre. Et ça n'a aucun lien. En fait, le retrait gonflement des argiles, il est dans les sols, sous les maisons, dans les sous-couches de la maison. Et donc, il peut avoir certains problèmes selon les localisations et les phénomènes. Nous, les argiles qu'on utilise, elles sont transformées et le produit qu'on utilise est totalement identique à du béton conventionnel. Il n'y a pas du tout ce sujet de gonflement, etc. Il ne bouge plus, il est inerte.
Pas de pénétration d'eau, par exemple, possible.
On a exactement les mêmes caractéristiques techniques que du conventionnel. Et d'accord. Ça, c'est le CSTB.
Donc, totalement imperméabilisé, donc.
Alors, imperméabilisé ou pas, puisqu'on fait du béton drainant, par exemple. Donc, il n'est pas. Ou on fait du ciment qui va être avoir des propriétés hygrothermiques. Donc, d'accord. Qui va permettre d'isoler.
Du béton drainant à base d'argile.
Exactement, exactement.
Ah oui, oui.
Et donc aujourd'hui, on a plus de 1000 chantiers réalisés, on industrialise depuis 4 ans. On
fait des parpaings. À l'échelle, ouais.
Voilà, on fait des... Là, on a une usine dans les Landes qui fonctionne depuis 4 ans. On livre des parpaings dans toute la France et on déploie d'autres sites puisqu'il y a bien...
Vous récupérez l'argile, vous avez dit.
Oui.
Donc vous faites du réemploi ?
Oui, tout à fait.
Ok, quelle est la source de ce réemploi ?
Alors, on a plusieurs sources. L'idée est de se dire... tout ce qu'on peut récupérer, récupérons-le, arrêtons de...
D'accord.
Alors c'est la déplétion des ressources, voilà, donc arrêtons de prendre, de prendre à la nature.
Vous ne prenez pas de l'argile naturelle?
Alors, c'est de l'argile qui a déjà été extraite, elle provient soit de déchets de carrière, par exemple carrière de granulat, carrière de marbre, etc. Il va y avoir de la poudre d'argile, en fait, quand il nettoie tout ça. Donc nous, ça, on est capable de le valoriser. On a tous les sédiments de dragage dans les ports, les canaux, les rivières. Il faut venir creuser parce que
eh oui,
les bateaux passent
eh
plus.
Eh oui.
Et ça, on ne sait pas quoi en faire. Mais nous, on sait le valoriser. Et puis, le dernier, la dernière grande source, ce sont les terres d'excavation. Aujourd'hui, on va excaver pour faire des tunnels, des métros, des fondations de maisons, etc. Donc tout ça aussi, on est en capacité de le valoriser. Donc c'est du déchet.
Mais ça demande un réseau à mettre en place colossal.
Alors, il est en train de se mettre en place. Il est en train de se mettre
donc,
en place.
Donc je, pour synthétiser ce que vous dites, vous n'extrayez pas de l'argile naturelle, vous récupérez de l'argile qui a déjà été extrait.
Exactement.
Donc, zéro impact.
Exactement.
Sur les sédimentations et les sols qui soient imperméabilisés ou pas.
Exactement.
Pas de danger du retrait-gonflement d'argile, parce qu'effectivement, c'est un matériau composite sur lequel vous travaillez, parce que cette question, je suppose qu'on vous la pose tout le temps. Avec cette aninginosité, bien évidemment, la question logique, c'est le prix.
Oui, combien ça coûte?
Est-ce que ça coûte moins cher qu'un béton classique?
Et oui, parce qu'in fine, peu importe le produit qu'on vend, et même s'il est 10 fois mieux qu'un autre produit...
Donc moins cher.
Il est au même prix que le conventionnel aujourd'hui.
Combien?
Donc, alors ça va dépendre des territoires.
Un exemple.
Nous aujourd'hui, on est au même prix que le ciment conventionnel vendu par les différents groupes que vous avez cités.
Donc à périmètre constant, on a un impact quasiment à zéro. Mm-hmm. On a une utilisation d'énergie pour la production, effectivement, notamment les fours, méga fours, etc. Sur lesquels, quand même, il faut être juste, il y a eu des évolutions sur l'utilisation, notamment récupération de l'énergie fatale, utilisation de matériaux pour justement tout ce qui touche à la combustion pour qu'il y ait une faible émissivité de CO2. Soyons honnêtes.
Oui. Et c'est nécessaire, il faut
continuer. Les grands cimentiers ont fait leur mue également, etc. Mm. Néanmoins, vous avez un impact très fort. Mais quand on voit votre innovation, on va se dire que le monde vous est offert.
Alors, notre objectif, ce n'est pas de s'étendre à l'infini, puisqu'on sait que la Terre est
finie. Cette ingéniosité dont vous êtes aujourd'hui les dépositaires en termes de brevets, là, du coup, votre marché, votre terrain de jeu, c'est le monde.
Exactement.
Partout.
Exactement. Exactement. Donc, le sujet qui se pose...
Grosse ambition chez Materro.
Oui, alors, grosse ambition de décarboner. Aujourd'hui, nous, on compte notre progression en tonnes de CO2 évitées. Donc, c'est vraiment notre driver. Et on n'a pas été entrepreneur et de se dire...
J'ai compris.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour...
Donc, vous produisez un béton qui a le même prix que les autres, sauf que vous avez zéro impact carbone.
Alors... 50% ou très, parce qu'on le déplace.
Ou très faible impact carbone.
Oui, exactement.
Oui, effectivement, il y a
on va jusqu'à moins 75%.
Oui. Et c'est mesurable.
Ah oui, c'est mesurable, c'est vérifié, c'est certifié par des FDES, etc. On a toutes les références.
RDES ?
FDES, donc c'est les fiches d'identité environnementale qui sont certifiées par des organismes indépendants, etc.
Et donc dans 10 ans, le ciment bar carbone, ce sera une généralité, donc vous serez partout ?
Alors ce que j'espère, c'est que effectivement le ciment bas carbone, il n'y ait plus de ciment conventionnel, qu'on ait tout substitué par du ciment bas carbone, puisqu'on a tous, je pense, vécu dans notre chair cet été ce qui nous rappelle à l'ordre et nous fait nous dire qu'il faut accélérer la décarbonation de l'industrie. On n'a pas le choix, il faut le faire et vite. Ce que j'espère, c'est que ce n'est pas dans 10 ans, mais que c'est dans 2 ans, après la mise en place des nouvelles actions de notre futur présidente ou président.
Avant de conclure l'émission, je voudrais que cette interview, et merci d'être venu sur le plateau de vos landes natales, un magnifique, magnifique territoire. La France, vous l'avez entendu dans le discours d'ouverture de Patrick Martin, et c'est une vraie tendance, veut se réindustrialiser. La semaine prochaine, il y a le salon immobilier bas carbone, vous y serez certainement.
Alors nos partenaires, ils seront ceux qui utilisent l'intimement, oui, ils seront.
Voilà, donc ça c'est important. Moi j'anime effectivement en plus une conférence sur la relocalisation industrielle à travers notamment des initiatives comme le nouvel EPR avec EDF et d'autres acteurs de l'industrie. Justement, le fait d'avoir localisé le dépôt de vos brevets en France et d'en avoir fait une innovation française, c'est quelque chose, vous, le groupe, la famille Neuville, que vous aviez à cœur.
Oui, c'était important pour nous. Okay. Nous
sommes vous avez conscience de l'exemple que ça représente au niveau industriel local de l'impact en termes d'image En fait, vous démontrez que c'est possible.
Pas forcément, mais oui. En tout cas, ce qu'on voulait, c'était démontrer que c'était possible. Mathieu, qui a travaillé dans des grands groupes, connaissait bien le fonctionnement de l'innovation technologique et industrielle. Il savait que si on ne la protège pas, il y a forcément un risque de prédation, y compris de prédation, enfin surtout de prédation par l'international.
Donc, oui.
L'idée, c'était de protéger ça. Et aujourd'hui, c'est pour nous essentiel d'avoir nos brevets qui sont protégés en France, en Europe, et dans le monde, et de pouvoir aller exporter. Alors on souhaite ne pas le faire seul. Aujourd'hui, on travaille avec des ETI, on travaille avec des PME locales, mais on travaille aussi avec des grands groupes, des majors, pour justement déployer ça partout.
Et ces majors, justement, est-ce qu'ils ont tenté, par exemple, de vous racheter les brevets, de racheter le groupe, des opérations? Alors je pense à Olsi, mais je peux penser aussi au capitalisme allemand avec Heidelberg Cement, par exemple, ou d'autres acteurs de l'industrie, les Lafarge et compagnie. Est-ce que vous les titillez? Ça doit être intéressant comme relation.
Alors nous, on a une position qui est très claire et très saine, à notre sens, de se dire on peut coopérer.
D'accord.
Parce qu'on pense que c'est en coopérant avec...
C'est une position coopérante ou une position résistante
De leur part ou de la nôtre. Parce que aujourd'hui, on travaille avec tous ceux qui veulent avancer. Voilà, de toutes les tailles. Aujourd'hui, on travaille... autant à l'étranger qu'en France sur le déploiement de nos usines. L'idée, c'est de se dire, certains groupes ont la puissance, ont déjà le réseau, ont les marchés.
Oui.
Nous, on a la technologie, travaillons
et
ensemble
moyens,
pour aller plus vite.
Oui, bien sûr.
Travaillons ensemble pour aller plus vite.
Parce que soyons clairs, le marché du ciment aujourd'hui est un marché ultra tendu. Ultra tendu pour plusieurs raisons d'ailleurs, qui a bénéficié d'un bashing. Et c'est vrai que non, on a des cimentiers aujourd'hui qui cherchent un peu leur identité et cherchent à innover. Sans compter un mouvement social important qui est celui de ne plus vouloir de cimenterie à proximité. J'en sais quelque chose, que j'ai participé à certains nombre de travaux où on a des élus locaux qui voulaient carrément se débarrasser de la cimenterie à cause des administrés qui ne supportaient plus d'avoir à proximité. Parce que l'inconvénient de votre industrie, c'est que elle est très localisable, très localisée justement là-dessus. Et je trouve intéressant, alors maintenant, voilà, c'est une question qui est tout à fait légitime, c'est de vous dire, est-ce que vous résisterez au chant des sirènes des grands fonds d'investissement pour garder cette spécificité à la fois familiale mais française, pour conserver cette identité dont le pays a besoin? Est-ce que vous, Charles, Mathieu, vous avez cette volonté véritablement citoyenne de vous intégrer dans ce dispositif?
Alors, nous, aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que l'entreprise était décidée d'être créée.
Ouais. Et puis, vous auriez pu la vendre à de multiples reprises.
Exactement. Nous, l'objectif, c'est de faire de l'évitement carbone. Donc, en fait, on est sur d'autres intérêts.
Bien sûr.
On a quitté des fonctions plutôt confortables et des groupes plutôt confortables.
Alors, justement, c'est rentable ou non?
Donc, là, aujourd'hui, on n'est pas encore rentable, mais on investit dans des usines. Donc,
d'accord.
Donc voilà, mais ce qui était intéressant dans ce que vous venez juste de dire, c'était personne ne veut de cimenterie à côté de chez lui.
C'est vrai.
Et on comprend.
Mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a des cimenteries en danger dans lesquelles il y a une volonté de mettre un terme à ces cimenteries de proximité.
En tout cas, nous, on a à la fois la technologie qui est innovante, mais c'est aussi la façon de la déployer. Aujourd'hui, nos sites industriels sont des tout petits sites industriels par rapport à des cimenteries conventionnelles. Pour vous donner les chiffres...
Vous n'avez pas besoin de la même taille qu'une...
Alors, une cimenterie conventionnelle, c'est 1 million de tonnes produites par an. Nous, c'est 10 fois moins. Par contre, on souhaite faire 10 petites usines réparties sur les territoires pour venir apporter à la fois le matériau, récupérer du déchet, le transformer et l'utiliser.
Alors,
sur le territoire.
Quelle source d'énergie vous utilisez pour faire fonctionner l'usine?
Électricité. 100%, on a des panneaux solaires, donc on a à la fois de l'électricité de réseau française, qui est plutôt décarbonée par rapport à d'autres pays, et on a des panneaux solaires.
D'accord, des panneaux, donc des panneaux photovoltaïques. Vous utilisez peut-être aussi à l'intérieur pour les collaborateurs des pompes à chaleur, peut-être, éventuellement réversibles. Est-ce que vous utilisez, est-ce que par exemple vous utilisez la géothermie, vous vous raccordez à des réseaux de chaleur?
Donc là, nous, on n'a pas besoin de chaleur en fait,
oui.
Ce n'est pour les quelques bureaux.
Donc, mais finalement, la chaleur que vous produisez, elle pourrait même être récupérable peut-être pour certains.
Oui, alors en fait, on a, et c'est aussi un sujet d'acceptabilité sur les territoires de l'industrie, parce que l'industrie a souvent. une image de pas propre, sale, bruyante, dérangeante. Et donc on comprend que les élus d'un territoire réfléchissent à deux fois avant d'accepter une usine. Nous, nos usines sont des usines vertes. Et c'est des usines qui ont plus... qui ont des externalités positives pour le territoire et pas d'externalités négatives. Et c'est ça qui va être important, c'est de se dire on a des petits sites qui peuvent s'implanter très facilement et qui n'ont pas de nuisances. On ne relargue pas de CO2 dans l'air, on ne relargue pas d'eau qui aurait des polluants, on fait un petit peu de bruit, oui, mais pas, beaucoup moins que l'industrie conventionnelle. Donc aujourd'hui, on est en capacité de venir sur un territoire s'implanter. Créer des
emplois. Mais l'empattement de le volume de l'usine, il fait combien ?
C'est sur un hectare.
C'est sur un hectare.
Voilà.
Donc vous n'êtes pas forcément à côté d'une zone résidentielle ou face à une zone résidentielle quand même ?
Pas forcément, mais aujourd'hui, certaines métropoles justement nous sollicitent parce qu'elles ont des friches industrielles qui sont dans les périmètres des métropoles. Il faut pouvoir les transformer. Et avec quoi les transformer ? Avec de l'industrie verte.
Il y a un site internet, Materup.
Oui.
Donc www.materup.com tout simplement. Je vais demander à notre ami Jason de mettre l'adresse de l'URL du site. On peut aller sur le site en vous écoutant pour voir ce que vous faites. C'est un vrai plaisir de vous recevoir.
Franchement, un grand merci Julie. C'est vrai qu'on a toujours pas de pétrole en France, mais par contre on a plein d'idées.
Oui, absolument.
Et là c'est vachement bien aussi de pouvoir mettre ça en avant, en fait, quoi, ce type d'initiative.
Ça nous plaît beaucoup. Alors vous allez dire, on force pas le trait. D'ailleurs, je le jure sur l'honneur que nous ne vous connaissions pas avant de vous recevoir sur le plateau. Hein,
on se rencontre pour la première fois. Je témoigne.
Voilà, nous réparons cette injustice. Il fallait que nous nous rencontrions parce que, en fait, si vous voulez, alors bien évidemment, au-delà de votre exemple, moi ce que je vois, c'est un capitalisme familial qui fait du bien dans notre pays. On a besoin de ces familles qui unissent. On a besoin de cette volonté citoyenne, mais ça, en plus, vous en savez quelque chose, parce que vous avez travaillé dans des CAB d'élus locaux, donc vous savez ce que c'est, que c'est important, et qu'il y a quand même 500 000 élus locaux chaque jour qui travaillent gratuitement pour la collectivité. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui ne sont pas rémunérés, ou alors rémunérés à des taux extrêmement bas. Je vous donne un exemple. Un maire de village de 1500 habitants, il va toucher à peu près 500 euros d'indemnité par mois pour qu'on le dérange la nuit, le jour, etc. Enfin, bref, on a besoin de ça. Et donc, c'est intéressant, si vous voulez, dans l'exemple. Ça vous dépasse, bien évidemment, mais en termes d'image, vous vous rendez compte, Julie, que vous projetez une image avec ce groupement. En plus, beaucoup d'intelligence, beaucoup de complétude entre Mathieu, l'ingénieur, et Charles, le financier, et vous, la porte-parole, finalement, du mouvement. Et je vous souhaite que cette famille reste à la tête de cette entreprise, qu'elle promeut cet exemple, parce que la France en a besoin.
Voilà. Et c'est possible.
Et c'est intéressant que ce soit possible. Et je trouve ça même très intéressant que vous bottiez les fesses des grands cimentiers, finalement,
allez,
pour les pousser à innover. Voilà, on dit les choses comme ça. En tout cas, comme le disait Patrick Martin, il faut avoir du courage, n'est-ce pas ?
Exactement, il faut avoir du courage, c'est le thème de cette édition de la REF. Merci beaucoup, Julien,
encore une fois,
d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de votre fidélité. Cette émission est évidemment retrouvée, comme toutes les autres d'ailleurs, en replay. Dans quelques instants, on va se retrouver ici avec le président de la FENAIM, Loïc Quentin. Merci de votre fidélité et à très vite, à tout de suite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.